Chapitre 3. Le baron de Tavernet, André de Tavernet. Tout prévenu qu'il était par Gilbert de la pénurie du baron de Tavernet, celui qui venait de se faire annoncer sous le nom de baron Joseph de Balsamo n'en fut pas moins étonné en voyant la médiocrité de la demeure baptisée emphatiquement par Gilbert du nom de château. La maison n'avait guère qu'un étage, formant un carré long, aux extrémités duquel s'élevaient deux pavillons carrés en forme de tourelle. Cet ensemble irrégulier ne manquait pas cependant, vu à la pâle lueur d'une lune glissant entre les nuages déchirés par l'ouragan, d'un certain agrément pittoresque. 6 fenêtres par bas, 2 fenêtres à chaque tourelle, c'est-à-dire une par étage, un perron assez large, mais dont les marches disloquées formaient de petits précipices à chaque jointure, tel fut l'ensemble qui frappa le nouvel arrivant avant de monter jusqu'au seuil où, ainsi que nous l'avons dit, attendait le baron en robe de chambre, un bougeoir à la main. Le baron de Tavernet était un petit vieillard de 60 à 65 ans, à l'œil vif, au front élevé mais fuyant. Il était coiffé d'une mauvaise perruque dont les bougies de la cheminée avaient peu à peu accidentellement dévoré tout ce que les rats de l'armoire avaient épargné de boucles. Il tenait en main une serviette d'une blancheur problématique, ce qui indiquait qu'il avait été dérangé au moment où il allait se mettre à table. Sa figure malicieuse, à laquelle on eût pu trouver quelque ressemblance avec celle de Voltaire, s'animait en ce moment d'une double expression facile à saisir. La politesse voulait qu'il sourît à l'inconnu, l'impatience changeait cette disposition en une grimace dont la signification tournait décidément à la Trabilaire et au Richinier, de sorte qu'éclairée par les lueurs tremblantes du bougeoir dont les ombres hachaient les principaux traits, la physionomie du baron de Tavernet pouvait passer pour celle d'un très laid seigneur. « Monsieur, dit-il, puis-je savoir à quel heureux hasard je dois le plaisir de vous voir ? Mais, monsieur, à l'orage qui a effrayé les chevaux, lesquels, en s'emportant, ont failli briser ma voiture. J'étais donc là, sur la grande route, sans postillon, l'un s'était laissé tomber de cheval, l'autre s'était sauvé avec le sien, lorsqu'un jeune homme que j'ai rencontré m'a indiqué le chemin qui conduisait à votre château, en me rassurant sur votre hospitalité bien connue. » Le baron leva son bougeoir pour éclairer un plus large espace de terrain et pour voir si, dans cet espace, il découvrirait le malheureux qui lui valait cet heureux hasard dont il parlait tout à l'heure. De son côté, le voyageur chercha autour de lui pour voir si, bien décidément, son jeune guide s'était retiré. « Et savez-vous comment se nomme celui qui vous a indiqué mon château, monsieur ?» demanda le baron de Tavernet, en homme qui veut savoir à qui exprimer sa reconnaissance. « Mais c'est un jeune homme qui s'appelle, je crois, Gilbert. »« Ah, Gilbert, je n'aurais pas cru qu'il fût bon, même à cela. Ah, c'est un fainéant, Gilbert, le philosophe Gilbert. » À ce flux d'épithètes accentué d'une menaçante façon, le visiteur comprit qu'il existait peu de sympathie entre le seigneur suzerain et son vassal. « Enfin, dit le baron après un moment de silence non moins expressif que ses paroles, veuillez entrer, monsieur. Permettez d'abord, monsieur, dit le voyageur, que je fasse remiser ma voiture qui contient des objets assez précieux. » « L'abri ! » cria le baron, « l'abri ! Conduisez la voiture de monsieur le baron sous le hangar, elle y sera un peu plus à couvert qu'au milieu de la cour, attendu qu'il y a encore beaucoup d'endroits où il reste des lattes. Quant aux chevaux, c'est autre chose, je ne vous réponds pas qu'ils trouvent à souper, mais comme ils ne sont point à vous et qu'ils sont au maître de poste, cela doit vous être à peu près égal. » Cependant, monsieur, dit le voyageur impatient, si je vous gêne par trop, comme je commence à le croire. Oh, ce n'est pas cela, monsieur, interrompit poliment le baron, ne vous gênez point, seulement vous serez gêné, vous, je vous en préviens. Monsieur, croyez que je vous serai toujours reconnaissant. Oh, je ne me fais pas d'illusions, monsieur, dit le baron, en levant de nouveau son bougeoir pour étendre le cercle de lumière du côté où Joseph Balsamo, aidé de l'abri, conduisait sa voiture, et en haussant la voix à mesure que son hôte s'éloignait. Oh, je ne me fais pas d'illusions, Tavernet est un triste séjour, et un pauvre séjour surtout. Le voyageur était trop occupé pour répondre. Il choisissait, comme l'y avait invité le baron de Tavernet, l'endroit le moins délabré du hangar pour y abriter sa voiture. Et quand elle fut à peu près à couvert, il glissa un louis dans la main de Labri, qui revint près du baron. Labri mit le louis dans sa poche, convaincu que c'était une pièce de 24 sous, et remerciant le ciel de l'aubaine. « À Dieu ne plaise que je pense de votre château, le mal que vous en dites, monsieur, » répondit Balsamo en s'inclinant devant le baron, qui, comme seule preuve qu'il lui avait dit la vérité, le conduisit en secouant la tête à travers une large et humide antichambre en grommelant « Bon, bon, je sais ce que je dis, je connais malheureusement mes ressources, elles sont fort bornées. Si vous êtes français, monsieur le baron, mais votre accent allemand m'indique que vous ne l'êtes pas, quoique votre nom italien, mais cela ne fait rien à la chose. Si vous êtes français, disais-je, ce nom de Tavernet vous eût rappelé des souvenirs de luxe. On disait autrefois « Tavernet le riche ». Balsamo pensait d'abord que cette phrase allait se terminer par un soupir, mais il n'en fut rien. « De la philosophie, pensa-t-il. Par ici, monsieur le baron, par ici, » continua le baron en ouvrant la porte de la salle à manger. « Hola, maître Labri, servez-nous comme si vous étiez sans valet de pied à vous tout seul. » Labri se précipita pour obéir à son maître. « Je n'ai que ce laquais, monsieur, » dit Tavernet, « et il me sert bien mal, mais je n'ai pas le moyen d'en avoir un autre. Cet imbécile est resté avec moi depuis près de 20 ans sans avoir touché un sou de gage, et je le nourris à peu près comme il me sert. Non, il est stupide, vous verrez. » Balsamo poursuivait le cours de ses études. « Sans cœur, se dit-il, mais au reste, peut-être n'est-ce que de l'affectation. » Le baron referma la porte de la salle à manger, et seulement alors, grâce à son bougeoir qu'il élevait au-dessus de sa tête, le voyageur put embrasser la salle dans toute son étendue. C'était une grande salle basse qui avait été autrefois la pièce principale d'une petite ferme élevée par son propriétaire au rang de château, laquelle était si chichement meublée qu'au premier coup d'œil elle semblait vide. Des chaises de paille à dos sculpté, des gravures d'après les batailles de Lebrun, encadrées de bois noir verni, une armoire de chêne noircie par la fumée et la vieillesse, voilà pour l'ornement. Au milieu s'élevait une petite table ronde sur laquelle fumait un unique plat qui se composait de perdreau et de choux. Le vin était renfermé dans une bouteille de grès à large ventre. L'argenterie, usée, noircie, bosselée, se composait de 3 couverts, d'un gobelet et d'une salière. Cette dernière pièce, d'un travail exquis et d'une grande pesanteur, semblait un diamant de prix au milieu de cailloux sans valeur et sans éclat. « Voilà, monsieur, voilà, » dit le baron en offrant un siège à son hôte, dont il avait suivi le regard investigateur. « Ah, votre regard s'arrête sur ma salière, vous l'admirez, c'est de bon goût, c'est poli, car vous tombez sur la seule chose qui soit présentable ici. Monsieur, je vous remercie de tout mon cœur, mais non, je me trompe, j'ai encore quelque chose de précieux par ma foi, et c'est ma fille. » « Mademoiselle André, » dit Balsamo. « Ma foi, oui, Mademoiselle André, » dit le baron, étonné que son hôte fût si instruit, « je vais vous présenter à elle. André, André, viens, mon enfant, n'aie pas peur. »« Je n'ai pas peur, mon père, » répondit d'une voix douce et sonore, à la fois une grande et belle personne qui se présenta à la porte sans embarras et pourtant sans hardiesse. Joseph Balsamo, quoique profondément maître de lui, comme on a déjà pu le voir, ne put cependant s'empêcher de s'incliner devant cette souveraine beauté. En effet, André de Tavernet, qui venait d'apparaître comme pour dorer et enrichir tout ce qui l'entourait, avait des yeux d'un blond châtain qui s'éclairait aux tempes et au cou. Ses yeux noirs, limpides, largement dilatés, regardaient fixement comme les yeux des aigles. Cependant, la suavité de son regard était inexprimable. Sa bouche vermeille se découpait capricieusement en arc d'un corail humide et brillant. D'admirables mains blanches effilées d'un dessin antique s'attachaient à des bras éblouissants de forme et d'éclat. Sa taille, à la fois souple et ferme, semblait celle d'une belle statue païenne à laquelle un prodige eût donné la vie. Son pied, dont la cambrure eût été remarquable près de celui de Diane Chasseresse, semblait ne pouvoir porter le poids de son corps que par un miracle d'équilibre. Enfin, sa mine, quoique de la plus grande simplicité, était d'un goût si parfait et si bien approprié à tout l'ensemble de sa personne qu'un habillement complet tiré de la garde-robe de la reine eût peut-être, au premier abord, semblé moins élégant et moins riche que son simple vêtement. Tous ces détails merveilleux frappèrent au premier coup d'œil Balsamo. Il avait tout vu, tout remarqué, du moment où Mademoiselle de Tavernay était entrée dans la salle à manger jusqu'au moment où il l'avait saluée. Et de son côté, le baron n'avait pas perdu une seule des impressions produites sur son hôte par cet assemblage unique de perfection. « Vous avez raison, » dit à voix basse Balsamo en se retournant vers son hôte. « Mademoiselle est d'une précieuse beauté. » Ne lui faites pas trop de compliments à cette pauvre Andrée, monsieur, dit négligemment le baron. Elle sort du couvent et elle croirait à ce que vous lui dites. Ce n'est pas, ajouta-t-il, que je redoute sa coquetterie. Au contraire, la chère enfant n'est pas assez coquette, monsieur. Et en bon père, je m'applique à développer en elle cette qualité qui fait la première force de la femme. Andrée baissa les yeux et rougit. Quelque bonne volonté qu'elle y mit, elle n'avait pu faire autrement que d'entendre cette singulière théorie émise par son père. « Disait-on cela à mademoiselle lorsqu'elle était au couvent ?» demanda en riant Joseph Balsamo au baron. « Et cette prescription faisait-elle partie de l'enseignement donné par les religieuses ?»« Monsieur, reprit le baron, j'ai mes idées à moi, comme vous avez peut-être déjà pu le voir. » Balsamo s'inclina en signe qu'il adhérait complètement à cette prétention du baron. « Non, continua-t-il, je ne veux pas imiter, moi, cette père de famille qui disent à leur fille « Sois prude, inflexible, aveugle, enivre-toi d'honneur, de délicatesse et de désintéressement. » Les imbéciles, il me semble voir des parrains conduisant leur champion dans la lice après l'avoir désarmé de toutes pièces, pour lui faire combattre un adversaire armé de pied en cap. Non, pardieu, il n'en sera pas ainsi de ma fille Andrée, bien qu'élevée à Tavernay dans un trou provincial. Quoique de l'avis du baron sur la désignation donnée à son château, Balsamo crut devoir mimer une contradiction polie. « Bon, bon, reprit le vieillard, répondant au jeu de physionomie de Balsamo, bon, je connais Tavernay, vous dis-je, mais quoi qu'il en soit, ici éloigné que nous nous trouvions de ce soleil resplendissant qu'on appelle Versailles, ma fille connaîtra le monde que j'ai si bien connu autrefois. Elle y entrera, si elle y entre jamais, avec un arsenal complet que je lui forge à l'aide de mon expérience et de mes souvenirs. » Mais, monsieur, je dois vous l'avouer, oui, le couvent a gâché tout cela. Ma fille, ces choses ne sont faites que pour moi. Ma fille est la première pensionnaire qui ait pris le bon de l'enseignement et suivi la lettre de l'Évangile. Corbleu, convenez que c'est joué de malheur, baron. Mademoiselle est un ange, répondit Balsamo, et en vérité, monsieur, ce que vous me dites ne me surprend pas. Andrée salua le baron en signe de remerciement et de sympathie, puis elle s'assit, comme le lui commandait son père, par un signe des yeux. « Asseyez-vous, baron, dit Tavernay, si vous avez faim, mangez. C'est un horrible ragoût que cet animal de l'abri a fricassé. »« Des perdreaux, vous appelez ça un abominable ragoût, dit en souriant l'hôte du baron, mais vous calomniez votre table, des perdreaux en mai, ils sont donc de vos terres ?» De mes terres à moi, il y a longtemps que tout ce que j'en avais, et je dois dire que mon bonhomme de père m'en avait laissé une certaine quantité, il y a longtemps, dis-je, que tout ce que j'en avais est vendu, mangé, digéré. Non, mon Dieu, non, grâce au ciel, je n'ai plus un pouce de terre, non, c'est ce fainéant de Gilbert qui n'est bon à rien qu'à lire et à rêvasser, et qui, dans ses moments perdus, aura volé, je ne sais où, un fusil, de la poudre et du plomb, et qui va tuer ces volatiles en braconnant sur les terres de mes voisins. Il ira aux galères, et bien certainement, je l'y laisserai aller, car cela me débarrassera de lui. Mais Andrée aime le gibier, ce qui fait que je pardonne à Monsieur Gilbert. Balsamo examina le beau visage d'Andrée, et n'y découvrit pas un pli, pas un tressaillement, pas une ombre de rougeur. Il s'assit à table entre elle et le comte, et elle lui servit, sans paraître le moins du monde embarrassé de la pénurie de la table, sa portion de ce plat fourni par Gilbert, assaisonné par l'abri et que dépréciait si fort le baron. Pendant ce temps, le pauvre Labri, qui ne perdait pas un mot des éloges que Balsamo donnait à lui et à Gilbert, offrait des assiettes avec une mine contrite qui devenait triomphante à chaque louange que le baron croyait devoir accorder à ses assaisonnements. « Il n'a pas seulement salé mon affreux ragoût !» s'écria le baron après avoir dévoré deux ailes de perdreau que sa fille avait placées sur son assiette au milieu d'une onctueuse couche de choux. « André, passez donc la salière à monsieur le baron !» André obéit en étendant le bras avec une grâce parfaite. « Ah, je vous prends à admirer encore ma salière, baron !» dit Tavernet. « Pour cette fois, vous vous trompez, monsieur, reprit Balsamo, c'était la main de mademoiselle que j'admirais. « Ah, parfait, c'est du Richelieu tout pur. Mais puisque vous la tenez, baron, cette fameuse salière que vous avez reconnue tout de suite pour ce qu'elle est, regardez-la, elle fut commandée par le régent à Lucas, l'orfèvre. Ce sont des amours de satyre et de bacchante. C'est libre, mais c'est joli. » Balsamo remarqua seulement alors le groupe de figures, charmant de travail et précieux d'exécution, qui était non pas libre, mais obscène. Cette vue le porta à admirer le calme et l'indifférence d'André, qui, à l'ordre de son père, lui avait présenté la salière sans sourciller et qui continuait de manger sans rougir. Mais comme si le baron eût pris à tâche d'écailler ce vernis d'innocence qui, pareil à la robe virginale dont parle l'écriture, recouvrait toute la personne de sa fille, il continua de détailler les beautés de son orfèvrerie malgré les efforts de Balsamo pour détourner la conversation. « Ah ça, mangez, baron, dit Tavernet, car il n'y a que ce plat, je vous en avertis. » Peut-être vous figurez-vous que le rôti va venir et que les entremets attendent, détrompez-vous, car vous seriez horriblement désappointé. Pardon, monsieur, dit André avec sa froideur ordinaire, mais si Nicole m'a bien comprise, elle doit avoir commencé un toffet dont je lui ai appris la recette. La recette? Vous avez appris la recette d'un plat à Nicole Leguet, à votre femme de chambre? Votre femme de chambre fait la cuisine? Il ne manquerait plus qu'une chose, c'est que vous la fissiez vous-même. Est-ce que la duchesse de Châteauroux ou le marquise de Pompadour faisaient la cuisine au roi? C'était au contraire le roi qui leur faisait des omelettes. Jour de Dieu, que je vois les femmes faire la cuisine chez moi. Oh, baron, excusez ma fille, je vous en supplie. « Mais, mon père, il faut bien qu'on mange, » dit tranquillement André. « Voyons, le guet, » ajouta-t-elle d'une voix plus haute, « est-ce fait ?»« Oui, mademoiselle, » répondit la jeune fille qui apportait un plat de la plus appétissante odeur. « Je sais bien qu'il ne mangera pas de ce plat-là, » dit Tavernet, furieux, en brisant son assiette. « Monsieur en mangera peut-être, » dit froidement André. Puis, se tournant vers son père, « Vous savez, monsieur, que vous n'avez plus que 17 assiettes de ce service qui me vient de ma mère. » Cela dit, elle trancha le gâteau fumant que Nicole Leguet, la jolie chambrière, venait de poser sur la table. L'esprit d'observation de Joseph Balsamo trouvait une ample pâture dans chaque détail de cette existence étrange et isolée, perdue dans un coin de la Lorraine. La salière seule lui révélait toute une face du caractère du baron de Tavernet, ou plutôt de son caractère sous toutes ses faces. Alors ce fut en appelant à son aide sa plus délicate pénétration qu'il interrogea les traits d'André au moment où elle effleura du bout de son couteau ces figures d'argent qui semblaient échapper d'un de ces repas nocturnes du régent à la suite desquels Canillac avait la charge d'éteindre les bougies. Soit curiosité, soit qu'il fût ému par un autre sentiment, Balsamo considérait André avec une telle persévérance que, deux ou trois fois, en moins de 10 minutes, les regards de la jeune fille durent rencontrer les siens. D'abord, la chaste et pure créature soutint ce regard singulier sans confusion, mais enfin sa fixité devint telle, tandis que le baron déchiquetait du bout de son couteau le chef-d'œuvre de Nicole, qu'une impatience fébrile, qui lui fit monter le sang aux joues, commença à s'emparer d'elle. Bientôt, se sentant troublée sous ce regard presque surhumain, elle essaya de le braver et ce fut elle, à son tour, qui regarda le baron de son grand œil clair et dilaté. Mais cette fois encore, elle dut céder, et sa paupière, inondée du fluide magnétique que projetait l'œil ardent de son hôte, s'abaissa, lourde et craintive, pour ne plus se lever qu'avec hésitation. Cependant, tandis que cette lutte muette s'établissait entre la jeune fille et le mystérieux voyageur, le baron grondait, riait et maugréait, jurait en vrai seigneur campagnard et pinçait le bras de la brie qui, malheureusement pour lui, se trouvait à sa portée dans un moment où son irritation nerveuse lui faisait éprouver le besoin de pincer quelque chose. Il allait sans doute en faire autant à Nicole quand les yeux du baron, pour la première fois sans doute, se portèrent sur les mains de la jeune femme de chambre. Le baron adorait les belles mains. C'était pour de belles mains qu'il avait fait toutes ces folies de jeunesse. « Voyez donc, dit-il, quel joli doigt a cette drôlesse, comme longues ses fils, comme il se recourberait sur la peau, ce qui est une beauté suprême, si le bois qu'on fend, si les bouteilles qu'on rince, si les casseroles qu'on récure, n'usaient affreusement la corne, car c'est de la corne que vous avez au bout des doigts, mademoiselle Nicole. » Nicole, peu habituée aux compliments du baron, le regardait avec un demi-sourire où l'étonnement avait plus de part encore que l'orgueil. « Oui, oui, dit le baron qui s'aperçut de ce qui se passait dans le cœur de la coquette jeune fille. « Fais la roue, je te le conseille. » « Ah, c'est ce que je vous dirais, mon cher hôte, que mademoiselle Nicole Le Guay, ici présente, n'est point une prude comme sa maîtresse et qu'un compliment ne lui fait pas peur. » Les yeux de Balsamo se portèrent vivement sur la fille du baron et il vit luire le dédain le plus suprême sur le beau visage d'André. Alors il trouva convenable d'harmoniser sa figure avec celle de la fière enfant. Celle-ci le remarqua et lui en sugré sans doute car elle le regarda avec moins de dureté ou plutôt avec moins d'inquiétude qu'elle ne l'avait fait jusque-là. « Croyez-vous, monsieur, continua le baron, en passant le dos de sa main sous le menton de Nicole, qu'il paraissait décidé à trouver charmante ce soir-là, croyez-vous que cette donzelle arrive du couvent, comme ma fille, et a presque reçu de l'éducation ? Ah, aussi, mademoiselle Nicole ne quitte pas sa maîtresse un seul instant, c'est un dévouement qui ferait sourire de joie messieurs les philosophes qui prétendent que ces espèces-là ont des âmes. » « Monsieur, dit André mécontente, ce n'est point par dévouement que Nicole ne me quitte point, c'est parce que je lui ordonne de ne pas me quitter. » Balsamo leva les yeux sur Nicole pour voir l'effet que feraient sur elle les paroles de sa maîtresse, fière jusqu'à l'insolence, et il vit à la crispation de ses lèvres que la jeune fille n'était point insensible aux humiliations qui ressortaient de son état de domesticité. Cependant, cette expression passa comme un éclair sur le visage de la chambrière, car en se détournant pour cacher une larme sans doute, ses yeux se fixèrent sur une fenêtre de la salle à manger qui donnait sur la cour. Tout intéressait Balsamo, qui semblait chercher quelque chose de son côté au milieu des personnages parmi lesquels il venait d'être introduit. Tout intéressait Balsamo, disons-nous, son regard suivit donc le regard de Nicole, et il lui sembla à cette fenêtre, l'objet de l'attention de Nicole, voir apparaître un visage d'homme. En vérité, pensa-t-il, tout est curieux dans cette maison, chacun a son mystère, et j'espère ne pas être une heure sans connaître celui de mademoiselle André. Je connais déjà celui du baron, et je devine celui de Nicole. » Il avait eu un moment d'absence, mais si court qu'eût été ce moment, le baron s'en aperçut. « Ah, vous rêvez aussi, vous, dit-il. Bon, vous devriez au moins attendre cette nuit, mon cher hôte. La rêverie est contagieuse, et c'est une maladie qui se gagne ici, à ce qui me semble. Comptons les rêveurs. Nous avons d'abord mademoiselle André, qui rêve, puis nous avons encore mademoiselle Nicole, qui rêve, et puis enfin, je vois rêver à tout moment ce fainéant qui a tué ses perdreaux, et qui rêvait peut-être aussi quand il les a tués. » Gilbert, demanda Balsamo. Oui, un philosophe comme monsieur Labrie. À propos de philosophes, est-ce que vous êtes de leurs amis? Oh, je vous préviens alors, vous ne serez pas des miens. Oh, non, monsieur, je ne suis ni bien ni mal avec eux, je n'en connais pas, répondit Balsamo. Ah, tant mieux, ventre bleu, ce sont de vilains animaux, plus venimeux encore qu'ils ne sont laids. Ils perdent la monarchie avec leurs maximes. On ne rit plus en France, on lit, et que lit-on encore des phrases comme celle-ci? Sous un gouvernement monarchique, il est très difficile que le peuple soit vertueux. Montesquieu. Ou bien, la vraie monarchie n'est qu'une constitution imaginée pour corrompre les mœurs des peuples et les asservir. Helvétius. Ou bien encore, si l'autorité des rois vient de Dieu, c'est comme les maladies et les fléaux du genre humain, Jean-Jacques Rousseau. Comme tout cela est récréatif, un peuple vertueux, à quoi servirait-il, je vous le demande? Ah, tout va mal, voyez-vous, et depuis que Sa Majesté a parlé à Monsieur de Voltaire et a lu les livres de Monsieur Diderot... En ce moment, Balsamo crut encore voir la même figure pâlissante apparaître derrière les vitres, mais cette figure disparut aussitôt qu'il fixa les yeux sur elle. « Mademoiselle serait-elle philosophe ?» demanda en souriant Balsamo. « Je ne sais pas ce que c'est que la philosophie, » répondit André, « je sais seulement que j'aime ce qui est sérieux. » « Eh, mademoiselle, s'écria le baron, rien n'est plus sérieux, à mon avis, que de bien vivre, aimez donc cela !» « Mais mademoiselle ne hait point la vie, à ce qui me semble, » demanda Balsamo. « Cela dépend, monsieur, » répliqua André. « Voilà encore un mot stupide, » dit Tavernet. « Eh bien, croiriez-vous, monsieur, qu'elle m'a déjà répondu, lettre pour lettre, par mon fils ?»« Vous avez un fils, mon cher hôte ?» demanda Balsamo. « Oh, mon Dieu, oui, j'ai ce malheur, un vicomte de Tavernet, lieutenant ou gendarme dauphin, un excellent sujet !» Le baron prononça ces trois derniers mots en serrant les dents comme s'il eût voulu en mâcher chaque lettre. « Je vous en félicite, monsieur, » dit Balsamo en s'inclinant. « Non, » répondit le vieillard, « encore un philosophe. Cela fait hausser les épaules, parole d'honneur. Ne me parlait-il pas l'autre jour d'affranchir les nègres ? Et le sucré, je fais, j'aime mon café, fort sucré, moi, et le roi Louis XV aussi. » « Monsieur, a-t-il répondu, plutôt se passer de sucre que de voir souffrir une race. Une race de singes, ai-je dit, et encore je leur faisais bien de l'honneur. Savez-vous ce qu'il a prétendu ? Foi de gentilhomme, il faut qu'il y ait quelque chose dans l'air qui leur tourne la tête. Il a prétendu que tous les hommes étaient frères, moi, le frère d'un Mozambique. Oh, fit Balsamo, c'est allé bien loin. » Qu'en dites-vous? J'ai de la chance, n'est-ce pas, avec mes deux enfants, et l'on ne dira pas de moi que je revis dans ma progéniture. La sœur est un ange et le frère un apôtre. Buvez donc, monsieur, mon vin est détestable. Je le trouve exquis, dit Balsamo en regardant André. Alors vous êtes philosophe aussi, vous. Ah, prenez garde, je vous ferai faire un sermon par ma fille. Mais non, les philosophes n'ont pas de religion. « Ah, c'était cependant bien commode, mon Dieu, d'avoir de la religion. On croyait en Dieu et au roi, tout était dit. Aujourd'hui, pour ne croire ni à l'un ni à l'autre, il faut apprendre trop de choses et lire trop de livres. Ah, j'aime mieux ne jamais douter. De mon temps, on n'apprenait que des choses agréables, au moins. On s'étudiait à bien jouer au pharaon, au biribi ou au passe-dix. On tirait admirablement l'épée, malgré les édits. On ruinait les duchesses et l'on se ruinait pour des danseuses. Ah, c'est mon histoire à moi. Tavernet tout entier est passé à l'opéra. Et c'est la seule chose que je regrette, attendu qu'un homme ruiné n'est pas un homme. Tel que vous me voyez, je parais vieux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que je me suis ruiné et que je vis dans une tanière, parce que ma perruque est râpée et mon habit gothique. Mais voyez mon ami le maréchal, qui a des habits neufs et des perruques retapées, qui habite Paris, qui a 200 000 livres de rente, eh bien, il est jeune encore, il est encore vert, dispo, aventureux. 10 ans de plus que moi, mon cher monsieur, 10 ans! « Est-ce de monsieur de Richelieu que vous voulez parler ?»« Sans doute. Du duc ?»« Pardieu, ce n'est pas du cardinal, je pense. Je ne remonte pas encore jusque-là. D'ailleurs, il n'a pas fait ce qu'a fait son neveu. Il n'a pas duré si longtemps. » »« Je m'étonne, monsieur, qu'avec de si puissants amis que ceux que vous paraissez avoir, vous quittiez la cour. » « Oh, c'est une retraite momentanée, voilà tout, et j'y rentrerai un jour, » dit le vieux baron en lançant sur sa fille un regard étrange. Ce coup d'œil fut ramassé en route par Balsamo. « Mais au moins, dit-il, monsieur le maréchal, fait avancer votre fils. Mon fils, lui, il l'a en horreur. Le fils de son ami, il a raison. Comment, c'est vous qui le dites ? Pardieu, un philosophe, il l'exècre. » Et Philippe le lui rend bien du reste, dit André avec un calme parfait. Desservez le guet. La jeune fille, arrachée à la vigilante observation qui rivait son regard à la fenêtre, accourut. Ah, dit le baron en soupirant, autrefois on restait à table jusqu'à 2 heures du matin. C'est qu'on avait de quoi souper, c'est que quand on ne mangeait plus, on buvait encore, mais le moyen de boire de la piquette quand on ne mange plus. Le guet est donné à un flacon de marasquin, si toutefois il en reste. Faites, dit André à le guet qui semblait attendre les ordres de sa maîtresse pour obéir à ceux du baron. Le baron s'était renversé dans son fauteuil et, les yeux fermés, il poussait des soupirs d'une mélancolie grotesque. Vous me parliez du maréchal de Richelieu, reprit Balsamo, qui paraissait décidé à ne point laisser tomber la conversation. Oui, dit Tavernet, je vous en parlais, c'est vrai. Et il chantonna un air non moins mélancolique que ses soupirs. S'il exècre votre fils, et s'il a raison de l'exécrer parce qu'il est philosophe, continua Balsamo, il a dû vous garder son amitié, à vous, car vous ne l'êtes pas. Philosophe, non, Dieu merci. Ce ne sont pas les titres qui vous manquent, je présume. Vous avez servi le roi. 15 ans. J'ai été aide de camp du maréchal. Nous avons fait ensemble la campagne de Mahon, et notre amitié date, ma foi, attendez donc, du fameux siège de Philisbourg, c'est-à-dire de 1742 à 1743. Ah, fort bien, dit Balsamo. Vous étiez au siège de Philisbourg, et moi aussi. Le vieillard se redressa sur son fauteuil et regarda Balsamo en face en ouvrant de grands yeux. « Pardon, dit-il, mais quel âge avez-vous donc, mon cher hôte ?»« Oh, je n'ai pas d'âge, moi, dit Balsamo en tendant son verre, afin que le marasquin lui fût servi par la belle main d'André. » Le comte interpréta la réponse de son hôte à sa façon et crut que Balsamo avait quelque raison de ne pas avouer son âge. « Monsieur, dit-il, permettez-moi de vous dire que vous ne paraissez pas avoir l'âge d'un soldat de Philipsbourg. Il y a 28 ans de ce siège, et vous en avez tout au plus 30, si je ne me trompe. »« Eh, mon Dieu, qui n'a pas 30 ans ?» dit le voyageur avec négligence. « Moi, pardieu, s'écria le baron, puisqu'il y a juste 30 ans que je ne les ai plus. » André regardait l'étranger avec une fixité qui indiquait l'irrésistible attrait de la curiosité. En effet, à chaque instant, cet homme étrange se révélait à elle sous un nouveau jour. « Enfin, monsieur, vous me confondez, dit le baron, à moins toutefois que vous ne vous trompiez, ce qui est probable, et que vous ne preniez Philipsbourg pour une autre ville. Je vous vois 30 ans au plus, n'est-ce pas, André ?»« En effet, répondit celle-ci, qui essaya encore de soutenir le regard puissant de son hôte et qui, cette fois encore, ne put y réussir. » « Non pas, non pas, dit ce dernier, je sais ce que je dis ce qui est, je parle du fameux siège de Philippebourg, où monsieur le duc de Richelieu a tué en duel son cousin, le prince de Lixen. C'était en revenant de la tranchée que la chose eut lieu, sur la grande route, ma foi. Au revers de cette grande route, du côté gauche, il lui logea son épée, au beau travers du corps. Je passais là, comme le prince de Deux-Ponts le tenait agonisant dans ses bras. Il était assis sur le revers du fossé, tandis que monsieur de Richelieu essuyait tranquillement son épée. « Monsieur, s'écria le baron, sur mon honneur, vous me bouleversez, cela s'est passé comme vous le dites. » « Vous avez entendu raconter la chose ?» demanda tranquillement Balsamo. « J'étais là, j'avais l'honneur d'assister comme témoin, monsieur le maréchal, qui n'était pas maréchal alors, mais cela n'y fait rien. »« Attendez donc, » fit Balsamo en regardant fixement le baron. « Quoi ? Ne portiez-vous pas à cette époque l'uniforme de capitaine ?»« Justement, vous étiez au régiment des chevaux légers de la reine qui furent écharpés à Fontenoy. » « Y étiez-vous aussi à Fontenoy ?» demanda le baron en essayant de goguenarder. « Non, répondit tranquillement Balsamo, à Fontenoy, j'étais mort. » Le baron ouvrit de grands yeux, André tressaillit, Nicole fit le signe de la croix. « Donc, pour en revenir à ce que je vous disais, continua Balsamo, vous portiez l'uniforme des chevaux légers. Je me le rappelle parfaitement à cette heure. Je vous ai vu en passant. Vous teniez votre cheval et celui du maréchal, tandis que celui-ci se battait. Je m'approchais de vous et je vous demandais des détails. Vous me les donnâtes. Moi ? Eh oui, pardieu, vous, je vous reconnais maintenant. Vous portiez le titre de chevalier, alors, et l'on ne vous appelait que le petit chevalier. » « Mordieu ! » s'écria Tavernet, tout émerveillé. « Excusez-moi de ne pas vous avoir remis d'abord, mais 30 ans changent un homme. Au maréchal Richelieu, mon cher baron !» Et Balsamo, après avoir levé son verre, le vida jusqu'à la dernière goutte. « Vous m'avez vu à cette époque !» répéta le baron. « Impossible !»« Je vous ai vu, » dit Balsamo. « Sur la grande route ?»« Sur la grande route. Tenant les chevaux ?»« Tenant les chevaux !» Au moment du duel, comme le prince rendait le dernier soupir, je vous l'ai dit. Mais vous avez donc 50 ans? Oh, j'ai l'âge qu'il faut pour vous avoir vu. » Cette fois, le baron se renversa sur son fauteuil avec un mouvement si dépité que Nicole ne put s'empêcher de rire. Mais André, au lieu de rire comme Nicole, se prit à rêver, les yeux fixés sur Balsamo. On eût dit que celui-ci attendait ce moment où l'avait prévu. Se levant tout à coup, il lança deux ou trois éclairs de sa prunelle enflammée à la jeune fille qui tressaillit comme si elle eût été frappée d'une commotion électrique. Ses bras se roidirent, son cou s'inclina, elle sourit comme malgré elle à l'étranger, puis ferma les yeux. Celui-ci, toujours debout, lui toucha les bras. Elle tressaillit encore. « Et vous aussi, mademoiselle, dit-il, vous croyez que je suis un menteur lorsque je prétends avoir assisté au siège de Philippsbourg ?»« Non, monsieur, je vous crois, articula André en faisant un effort surhumain. « Alors c'est moi qui radote, dit le vieux baron. Ah, pardon, à moins que monsieur ne soit un revenant, une ombre. » Nicole ouvrit de grands yeux effarés. Qui sait, dit Balsamo, avec un accent si grave qu'il acheva de captiver la jeune fille. Voyons, sérieusement, monsieur le baron, reprit le vieillard qui paraissait décidé à tirer la chose au clair. Est-ce que vous avez plus de 30 ans? En vérité, vous ne les paraissez pas. Monsieur, dit Balsamo, me croirez-vous si je vous dis quelque chose de peu croyable? Je ne vous en réponds pas, dit le baron en secouant la tête d'un air narquois, tandis qu'André, au contraire, écoutait de toutes ses forces. Je suis fort crédule, je vous en préviens, moi. Que vous sert-il alors de me faire une question dont vous n'écouterez pas la réponse? Eh bien, si, je vous croirai, là, êtes-vous content? Alors, monsieur, je vous répéterai ce que je vous ai déjà dit. Non seulement je vous ai vu, mais encore je vous ai connu au siège de Philippsbourg. Alors, vous étiez enfant? Sans doute. Vous aviez 4 ou 5 ans de plus? Non pas, j'en avais 41. Ah, s'écria le baron en riant aux éclats, tandis que Nicole lui faisait écho. Je vous l'avais bien dit, monsieur, dit gravement Balsamo, vous ne me croyez point. « Mais comment croire sérieusement, voyons? Donnez-moi une preuve. »« C'est bien clair, pourtant, reprit Balsamo sans montrer aucun embarras. J'avais 41 ans à cette époque, c'est vrai, mais je ne dis pas que je fusse l'homme que je suis. » »« Ah, mais cela devient du paganisme, s'écria le baron. N'y a-t-il pas eu un philosophe grec? Ce misérable philosophe, il y en a eu tout temps. N'y a-t-il pas eu un philosophe grec qui ne mangeait pas de fèves parce qu'il prétendait qu'elles avaient des âmes, comme mon fils prétend que les nègres en ont? Qui avait inventé ça? C'était, comment diable appelez-vous? Pythagore, dit André. Oui, Pythagore, les jésuites m'ont appris cela autrefois. Le père Porré m'a fait composer là-dessus des vers latins en concurrence avec le petit Arouet. Je me rappelle même qu'il trouva ces vers infiniment meilleurs que les siens. Pythagore, c'est cela. Eh bien, qui vous dit que je n'ai pas été Pythagore? Répondit très simplement Balsamo. Je ne nie pas que vous n'ayez été Pythagore, dit le baron, mais enfin, Pythagore n'était point au siège de Philippsbourg, je ne l'y ai pas vu, du moins. Assurément, dit Balsamo, mais vous y avez vu le vicomte Jean des Barreaux, lequel était au mousquetaire noir. Oui, oui, je l'ai vu, celui-là, ce n'était pas un philosophe, bien qu'il eût horreur des fèves et qu'il n'en mangeât que lorsqu'il ne pouvait faire autrement. Eh bien, c'est cela. Vous rappelez-vous que le lendemain du duel de monsieur de Richelieu, des barreaux étaient de trancher avec vous? Et parfaitement. Car vous vous souvenez de cela, les mousquetaires noirs et les chevaux légers montaient ensemble tous les 7 jours. C'est exact. Après? Eh bien, après, la mitraille tombait comme grêle ce soir-là. Des barreaux étaient tristes. Il s'approcha de vous et vous demanda une prise que vous lui offrîtes dans une boîte d'or. Sur laquelle était le portrait d'une femme? Justement, je la vois encore, blonde, n'est-ce pas? Mordieu, c'est cela, dit le baron tout effaré. Ensuite? Ensuite, continua Balsamo, comme il savourait cette prise, un boulet le prit à la gorge, comme autrefois monsieur de Berwick, et lui emporta la tête. Et la suite, dit le baron, ce pauvre des barreaux. Eh bien, monsieur, vous voyez bien que je vous ai vu et connu à Philippsbourg, dit Balsamo, puisque j'étais des barreaux en personne. Le comte se renversa en arrière dans un accès de frayeur, ou plutôt de stupéfaction, qui donna aussitôt l'avantage à l'étranger. Mais c'est de la sorcellerie, cela, s'écria-t-il. Il y a 100 ans, vous eussiez brûlé, mon cher hôte. Et mon Dieu, il me semble qu'on sent ici une odeur de revenant, de pendu, de roussi. Monsieur le baron, dit en souriant Balsamo, un vrai sorcier n'est jamais ni pendu ni brûlé. Mettez-vous bien cela dans l'esprit. Ce sont les sots qui ont affaire au bûcher ou à la corde. Mais vous plaît-il que nous en restions là pour ce soir, car voilà mademoiselle de Tavernet qui s'endort. Il paraît que les discussions métaphysiques et les sciences occultes ne l'intéressent que médiocrement. En effet, André, subjugué par une force inconnue, irrésistible, balançait mollement son front comme une fleur dont le calice vient de recevoir une trop forte goutte de rosée. Mais au dernier mot du baron, elle fit un effort pour repousser cette invasion dominatrice d'un fluide qui l'accablait. Elle secoua énergiquement la tête, se leva, et tout en trébuchant d'abord, puis soutenue par Nicole, elle quitta la salle à manger. En même temps qu'elle, disparut aussi la face collée au carreau et que, depuis longtemps déjà, Balsamo avait reconnue pour celle de Gilbert. Un instant après, on entendait André attaquer vigoureusement les touches de son clavecin. Balsamo l'avait suivi de l'œil tandis qu'elle traversait, chancelante, la salle à manger. « Allons, dit-il, triomphant, lorsqu'elle eut disparu, je puis dire comme Archimède, Eureka. »« Qu'est-ce qu'Archimède ? » demanda le baron. « Un brave homme de savant que j'ai connu il y a 2500 ans, dit Balsamo. »